Et il fut soulagé quand le rabbin lui suggéra de poursuivre leur conversation dans le jardin public qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Ils s'assirent sur un banc. Sol s'aperçut qu'il avait gardé sa kippa et il la fit passer, gêné, d'une main dans l'autre. Il flottait dans l'air une odeur de feuilles brûlées et de pluie de la nuit précédente. « Je ne comprends pas très bien, H. Weintraub, » lui dit le rabbin, « si c'est votre rêve qui vous dérange, ou si vous êtes troublé par le fait que la maladie de votre fille a commencé juste après ce rêve. » Sol leva la tête vers la lumière du soleil. « Ni l'un ni l'autre, » dit-il. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un rapport. » Le rabbin se passa le doigt sur la lèvre inférieure. « Quel âge a votre fille ?»« 13 ans. » fit Sol après une légère hésitation. « Et sa maladie est très grave. Elle met ses jours en danger ?»«
Pas pour le moment, » déclara Sol.
Le rabbin croisa les mains sur son ventre replet.
« Vous ne croyez pas... Vous permettez que je vous appelle Sol ?»«
Bien sûr. » »«
Vous ne croyez pas, Sol, que c'est à la suite de ce rêve et par votre faute que votre petite fille est tombée malade, n'est-ce pas ?»«
Non. »
répondit Sol en se demandant si c'était bien la vérité.
« Vous pouvez m'appeler Morty, Sol. »«
Très bien, Morty. Non, je ne suis pas venu vous trouver parce que je me sentais coupable de la maladie de ma fille ou de quoi que ce soit. Mais j'ai tout de même le sentiment que mon subconscient essaie de me dire quelque chose. »
Morty se balança légèrement d'avant en arrière.
« Peut-être qu'un psychologue ou un neurologue pourrait vous aider davantage, Sol. »
« Je ne vois pas très bien ce que je... »«
C'est l'histoire d'Abraham qui m'intéresse, » interrompit Sol.
« Je veux dire que j'ai quelque expérience de différents systèmes d'éthique, mais il m'est difficile de comprendre celui qui commence, pour un père, par l'ordre de sacrifier son fils. »«
mais non !»
protesta le rabbin en agitant comiquement devant lui des doigts boudinés.
« Le moment venu, Dieu a retenu la main d'Abraham !» Il n'aurait jamais accepté qu'un sacrifice soit commis en son nom. Il voulait seulement une obéissance aveugle à son commandement et...
« Je sais, » murmura Sol, « une obéissance aveugle. »
Mais il est dit, alors Abraham avança la main et prit le couteau pour tuer son fils.
Dieu avait dû lire dans son âme et voir qu'Abraham était prêt à faire périr Isaac. Une simple démonstration d'obéissance sans engagement total n'aurait pas apaisé le Dieu de la Genèse. Mais que se serait-il passé si Abraham avait aimé son fils plus que Dieu?
Morty pianota quelques instants sur son genou, puis saisit le bras de Sol.
« Je vois que la maladie de votre fille vous bouleverse, » dit-il. « Mais ne mélangez pas cela avec un document écrit depuis 8000 ans. Parlez-moi d'elle.
Les enfants ne meurent plus de maladie aujourd'hui, pas dans leur Etz. »
Sol se leva, un sourire aux lèvres, et fit un pas en arrière pour libérer son bras.
« J'aimerais bien bavarder encore un peu avec vous, Morty, sincèrement, » dit-il. « Mais il faut que je rentre. J'ai un cours dans la soirée. »«
Viendrez-vous au temple pour le Shabbat ?»
demanda le rabbin en lui tendant ses doigts courts pour un dernier contact humain. Sol déposa la kippa dans le creux de sa main.
« Un de ces jours, peut-être, » dit-il.
« Je viendrai un de ces jours, Morty. »
Vers la fin du même automne, Sol vit un jour, en regardant par la fenêtre de son bureau, la silhouette sombre d'un homme qui se tenait au pied de l'orme aux branches nues devant la maison. « Les médias, » se dit-il avec un serrement de cœur. Depuis 10 ans, il appréhendait le moment où leur secret serait découvert et où leur vie secrète à Crawford prendrait fin. Il sortit, dans l'air glacé du soir, et reconnut aussitôt le visage de l'homme.
« Melio !»
s'écria-t-il. L'archéologue avait les mains dans les poches de sa longue vareuse bleu marine. Malgré les 10 années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, Arundez n'avait pas tellement vieilli. Il devait avoir un peu moins de 30 ans, se disait Sol, mais son visage hâlé par le soleil était sillonné de rides de tourment. Il lui serra la main presque timidement.
« Sol !» « Je ne savais pas que vous étiez de retour. Entrez donc !»«
Non !»
fit l'archéologue en reculant d'un pas. « Il y a 1 heure que je suis devant votre porte, Sol.
Je n'ai pas eu le courage de venir frapper. »
Sol ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se contenta de hocher la tête. Il mit lui aussi les mains dans ses poches à cause du froid. Les premières étoiles apparaissaient au-dessus des pignons noirs de la maison. «
Rachel est sortie, » dit-il finalement. « Elle est allée à la bibliothèque. Elle croit
qu'elle a un devoir d'histoire à rendre. » Mélio prit une inspiration pénible et hocha la tête à son tour.
« Sol, » dit-il d'une voix rauque, « il faut que vous compreniez, Sarah et vous, que nous avons vraiment fait tout ce que nous avons pu. Nous sommes restés près de 3 ans sur Hyperion, toute l'équipe. Nous serions restés davantage si l'université ne nous avait pas coupé les vivres. Nous n'avons rien trouvé qui... »
« Je sais, » murmura Sol. « Nous vous remercions de nous avoir envoyé ces messages d'Istrance. »
« J'ai moi-même passé des mois entiers à l'intérieur du Sphinx, » reprit Mélio. « D'après les instruments, il ne s'agissait que de pierres inertes, mais à certains moments, j'ai eu l'impression que quelque chose... »
Il secoua de nouveau la tête.
« Je lui ai failli, Sol. Ne dites pas cela !»
fit Sol en agrippant l'épaule du jeune homme à travers sa vareuse.
« Mais j'ai une question à vous poser. Nous avons contacté les sénateurs qui nous représentent, et même les plus hauts responsables du Conseil des sciences. Personne n'a pu nous expliquer pourquoi l'hégémonie n'a pas consacré plus de temps et d'argent à enquêter sur les phénomènes qui se sont produits sur Hyperion. Il me semble que le Retz aurait dû depuis longtemps coloniser ce monde, ne serait-ce que pour le potentiel scientifique qu'il représente. Comment une énigme aussi mystérieuse que les tombeaux du temps a-t-elle pu demeurer ignorée si longtemps ?
Je comprends très bien ce que vous voulez dire, Sol. Même l'arrêt des crédits de l'université nous a paru suspect. Tout se passe comme si l'hégémonie avait pour politique délibérée d'éviter tout ce qui touche à Hyperion.
Vous croyez que...
Sol fut interrompu par Rachel qui s'approchait d'eux dans la lumière automnale du soir. Elle avait les mains profondément enfoncées dans son blazer rouge, ses cheveux étaient coupés courts dans l'ancien style des adolescents d'un peu partout, et ses joues rebondies étaient rouges sous le froid mordant. Elle était en fait à la frontière de l'enfance et de l'adolescence, avec ses longues jambes cachées par des jeans, ses tennis et son blazer qui auraient pu la faire passer de loin pour un garçon. Elle leur sourit en les apercevant.
« Salut, pa !»
dit-elle en s'approchant dans la pénombre, inclinant timidement la tête à l'intention de Mélio.
« Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre votre conversation. »
Sol prit une profonde inspiration.
« Ce n'est pas grave, ma petite fille, » dit-il.
« Rachel, je te présente le professeur Arundes de l'université de Reich sur Friholm. Professeur Arundes, ma fille Rachel. »«
Très heureuse de faire votre connaissance !»
fit Rachel, véritablement rayonnante à présent.
« Reich, j'ai vu le programme des cours. J'aimerais tellement pouvoir y aller un jour !»
Mélio s'inclina raidement, comme s'il avait, se disait Sol, du mal à courber les épaules.
« Est-ce que... »
commença Mélio.
« Est-ce que vous avez une idée de ce que vous aimeriez étudier ?»
La douleur dans sa voix devait être perceptible, même pour Rachel, mais elle se contenta de hausser les épaules en riant.
« Ben, n'importe quoi, à vrai dire. Le vieux Eckhart, c'est mon prof de paléontologie et d'archéologie à l'école où je suis des cours spéciaux, dit qu'ils ont là-bas une section formidable d'artefacts anciens et classiques. »
« C'est vrai, »
réussit à dire Mélio. Le regard de Rachel se porta timidement de cet homme à son père, comme si elle sentait une tension qu'elle était incapable de définir.
« Bon, »
dit-elle,
« vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire et je ne voudrais pas vous interrompre plus longtemps. Je rentre, il est l'heure d'aller me coucher, je pense. Maman dit que je ne dois pas veiller avec ce virus de la méningite ou je ne sais trop quoi que j'ai attrapé, car ça risquerait de me porter sur le système. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance, professeur Arundes, et j'espère que nous nous reverrons à Reich un de ces jours. »
« Je l'espère aussi, »
lui dit Mélio en la regardant avec une telle intensité dans la semi-obscurité de la rue, que Sol eut l'impression qu'il cherchait à mémoriser cette scène dans ses moindres détails.
« Bon, ben, bonne nuit alors !»
fit Rachel en s'éloignant à reculons sur le trottoir, ses semelles crissant légèrement.
« À demain, pa !»«
Bonne nuit, Rachel !»
Elle s'arrêta encore dans l'encadrement de la porte d'entrée. La lumière du porche la faisait paraître beaucoup plus jeune que les 13 ans qu'elle avait.
« Salut, poilu !»
lança-t-elle.
« À plus tard, tête de lard !»
lui répondit Sol, et il vit les lèvres de Mélio remuer à l'unisson. Ils demeurèrent quelque temps sur le trottoir en silence, tandis que la nuit s'installait sur la ville. Une bicyclette passa dans la rue, faisant craquer les feuilles mortes, les rayons de ses roues brillant dans la lumière diffusée par les vieux réverbères.
« Entrez, » dit Sol. « Sarah sera heureuse de vous revoir. Rachel sera dans sa chambre. »«
Non, merci, » lui dit Melio, les mains toujours dans les poches, immobile dans l'ombre.
« J'ai besoin de... J'ai commis une erreur, Sol. »
Il commença à s'éloigner, s'arrêta, puis tourna la tête.
« Je vous appellerai de Friholm, » dit-il. « Nous mettrons sur pied une nouvelle expédition. »
Sol hocha la tête. 3 ans de transit, songea-t-il. Si elle partait ce soir avec lui, elle aurait moins de 10 ans en arrivant.
« Entendu, » répondit-il.
Melio agita la main pour lui dire au revoir, puis s'éloigna en faisant craquer les feuilles mortes sous ses pas. Sol ne devait plus jamais le revoir en personne. Le plus grand temple Grichtec du Retz se trouvait sur l'Usus, et Sol s'y distransporta quelques semaines avant le 10e anniversaire de Rachel. Le bâtiment proprement dit n'était pas beaucoup plus grand qu'une cathédrale de l'ancienne terre, mais il semblait gigantesque avec ses effets d'arc-boutant auxquels il ne manquait qu'une église, ses étages supérieurs déformés et ses murs extérieurs en verre fumé. L'humeur de Sol était au plus bas et la lourde gravité lusienne n'était pas de nature à l'alléger. Malgré son rendez-vous avec l'évêque, il dut attendre 5 bonnes heures avant d'être introduit dans le Saint des Saints. Il passa la plus grande partie de ce temps à contempler l'imposante sculpture d'acier polychrome de 20 mètres de haut, qui tournait lentement sur elle-même et qui représentait peut-être le Gritsch légendaire. C'était à coup sûr en même temps un hommage abstrait à toutes les armes coupantes et tranchantes qui eussent jamais été inventées. Mais ce qui intéressait le plus Sol Weintraub, c'étaient les 2 globes rouges qui flottaient à l'intérieur de l'espace de cauchemar censé représenter un crâne.
« H. Weintraub ?»«
Votre Excellence ?» murmura Sol.
Il remarqua que les acolytes, exorcistes, assesseurs et huissiers qui lui avaient tenu compagnie durant sa longue attente se prosternaient sur les dalles de pierre noire à l'arrivée du grand prêtre. Il fit un effort pour s'incliner de manière aussi respectueuse que possible.
« Avancez, avancez, je vous en prie, H. Weintraub !»
dit le prêtre en indiquant l'entrée du sanctuaire Grichtec d'un geste large de son bras à la manche pendante. Sol passa dans une salle sombre où chaque bruit résonnait et qui n'était pas sans lui rappeler le décor de son rêve. Il prit un siège que lui indiquait l'évêque. Tandis que ce dernier prenait place sur ce qui ressemblait à un petit trône derrière un bureau sculpté de manière complexe mais indubitablement moderne, Sol s'avisa que le grand prêtre était natif de l'Usus, avec l'embonpoint et le double menton typique, qui ne l'empêchait pas d'être impressionnant comme tous les résidents de cette planète. Sa robe était d'un rouge agressif, couleur de sang artériel, et coulait en plis qui évoquait plus un liquide retenu par des barrières transparentes qu'un tissu de soie ou de velours brodé d'hermine couleur d'onyx. L'évêque avait un gros anneau rouge ou noir à chaque doigt, et l'alternance de ces 2 couleurs produisait sur Sol un effet extrêmement troublant.
« Votre Excellence, » commença Sol, « je vous prie d'avance de m'excuser si j'ai enfreint le protocole de votre église Grichtec ou si je l'enfreins plus tard. J'avoue mon ignorance presque totale en la matière, mais c'est le peu que je connais déjà qui m'amène ici. Pardonnez-moi donc si j'utilise inconsidérément les titres ou les appellations. » Ces maladresses ne seront dues qu'à l'imperfection de mes connaissances.
L'évêque fit tortiller ses doigts devant Sol. Les pierres rouges et noires scintillèrent dans la lumière diffuse.
Les titres n'ont pas beaucoup d'importance, H. Weintraub. Il est acceptable pour un non-croyant de nous appeler votre Excellence. Nous vous ferons cependant remarquer que la dénomination officielle de notre modeste culte est l'Église de l'expiation finale. Et que l'entité que le monde appelle si légèrement le Gritsch est pour nous, dans les rares cas où nous nous référons à son nom, le Seigneur de la douleur, ou encore plus communément l'Avatar. Mais veuillez maintenant formuler la très importante requête que vous dites avoir à nous présenter.
Sol s'inclina légèrement.
Votre Excellence, je ne suis qu'un simple enseignant.
Pardonnez-moi de vous interrompre, H. Weintraub, mais vous êtes beaucoup plus qu'un enseignant. vous êtes un très grand érudit. Vos écrits sur l'herméneutique morale ont retenu notre attention. Vos interprétations sont quelquefois erronées, mais fort intéressantes. Nous les citons régulièrement dans nos cours sur l'apologétique doctrinale. Poursuivez, je vous prie.
Sol cligna plusieurs fois des paupières. Ses travaux étaient pratiquement inconnus en dehors des sphères académiques les plus étroites, et cette déclaration le troublait. Dans les 5 secondes qui lui furent nécessaires pour retrouver ses esprits, cependant, il préféra se dire que l'évêque Grichtek avait un excellent secrétariat et aimait se documenter sur les gens à qui il avait affaire.
« Votre Excellence, mes antécédents n'ont rien à voir avec la question qui m'amène ici. Je vous ai demandé cette audience parce que mon enfant, ma fille, a contracté une maladie, à la suite peut-être de certaines recherches qu'elle menait dans un domaine qui a pour votre Église une grande importance. Je veux parler naturellement de ce que l'on appelle les tombeaux du temps sur la planète Hyperion. »
L'évêque hocha lentement la tête. Sol se demanda s'il connaissait déjà l'histoire de Rachel.
Vous savez sans doute, H. Weintraub, que la région à laquelle vous faites allusion et que nous appelons les Arches de l'Alliance a été récemment interdite aux soi-disant chercheurs par le Conseil intérieur d'Hyperion.
Oui, Votre Excellence, je l'ai appris récemment.
Dois-je comprendre que votre Église a exercé une influence sur cette décision légale ? L'évêque n'eut aucune réaction. Au loin, par-delà la pénombre troublée d'encens, un carillon très faible se fit entendre.
« Quoi qu'il en soit, reprit Sol, j'avais espéré, Votre Excellence, que la doctrine de votre Église pourrait jeter quelques lumières sur la maladie de ma fille. »
L'évêque pencha la tête en avant de telle manière que l'unique rayon de lumière qui éclairait les lieux faisait luire son front, laissant ses yeux dans l'ombre.
« Souhaitez-vous être religieusement initié au mystère de notre Église, H. Weintraub ?»
Sol passa un doigt dans sa barbe.
« Non, Votre Excellence, à moins que cette initiation ne soit en mesure d'améliorer le bien-être de mon enfant. »
« Votre fille désire peut-être faire partie de l'Église de l'expiation finale ?»
Sol hésita un bref instant.
« Je vous répète, Excellence, que tout ce qu'elle désire, c'est guérir. »
Si vous pensez qu'elle peut atteindre ce but en embrassant votre foi, nous envisagerons sérieusement cette éventualité. » L'évêque se laissa aller en arrière sur son trône, dans un froissement d'étoffe dont le rouge semblait couler de lui comme un liquide dans la semi-obscurité.
« C'est de bien-être physique, H. Weintraub, que vous voulez parler. Notre Église est l'arbitre final du salut spirituel. » Avez-vous conscience de ce que le premier découle invariablement du second ?
Je sais qu'il s'agit là d'une très ancienne et très respectable proposition, répondit Sol. Ce qui nous intéresse, ma femme et moi, c'est le bien-être total de notre enfant.
L'évêque appuya son large menton sur son poing.
Puis-je savoir la nature du mal qui ronge votre fille, H. Weintraub ?
C'est une maladie liée à l'écoulement du temps, Votre Excellence.
L'évêque se pencha en avant, soudain tendu.
Et dans quel lieu saint dites-vous qu'elle a contracté ce mal, H. Weintraub ?
Dans l'artefact que l'on appelle le sphinx, Votre Excellence.
L'évêque se leva alors si vivement que plusieurs papiers de son bureau volèrent jusqu'au sol. Même sans les plis de sa robe, cet homme devait faire au moins 2 fois la masse de Sol qu'il dominait à présent comme une figure incarnée de la mort rouge.
« Vous pouvez vous retirer !»
fit-il d'une voix tonitruante.
« Votre fille est la plus bénie et la plus maudite des créatures de ce monde. Il n'y a rien que vous ou cette Église ou quoi que ce soit de ce côté-ci de la vie puissiez faire pour elle.
« Votre Excellence !» insista Sol sans se démonter. « Si la moindre possibilité existait de...
« Non !»
s'écria l'évêque, dont le rouge à présent s'était communiqué au visage. Il frappa du poing sur son bureau. Des assesseurs et des exorcistes se présentèrent sur le seuil. Leurs robes noires ourlées de rouge formaient un sinistre complément au costume de l'évêque. À côté d'eux, les huissiers tout en noir se confondaient avec les ombres.
« L'audience est terminée !»
déclara l'évêque d'une voix moins forte mais tout aussi déterminée.
Votre fille a été choisie par l'Avatar pour expier d'une manière que tous les pécheurs et infidèles devront connaître un jour. Un jour très prochain.
Votre Excellence, si vous pouviez m'accorder 5 minutes de plus...
L'évêque fit claquer ses doigts et 2 exorcistes s'avancèrent pour le reconduire. C'étaient des Lusiens. Un seul d'entre eux aurait pu maîtriser 5 universitaires de la taille de Sol.
« Votre Excellence !»
protesta Sol en libérant d'une secousse son bras prisonnier de la main de l'un des assesseurs. Mais 3 autres exorcistes s'avançaient déjà pour prêter main forte aux acolytes musclés. L'évêque leur tournait le dos et semblait absorbé dans la contemplation des ténèbres. L'antichambre du sanctuaire résonna des hurlements de Sol et de ses piétinements. Il y eut au moins un cri de douleur lancé par l'un des exorcistes lorsque le pied de Sol entra malencontreusement en contact avec l'une des parties les plus sacrées de son individu. Mais cela n'affecta nullement l'issue du débat. Il se retrouva sur le trottoir du temple, tandis que le dernier huissier lui lançait son chapeau aplati comme une crêpe. Il séjourna encore 10 jours sur l'Usus, sans que cela lui rapporte rien de plus qu'un surcroît de fatigue gravifique. Les bureaucrates du temple refusaient de répondre à ses appels. Les tribunaux se déclaraient incompétents. Les exorcistes l'attendaient à l'entrée du vestibule. Sol se distransporta alors sur la Nouvelle Terre et sur le vecteur Renaissance, sur Fuji et sur Tosseti Central, sur Deneb Drey et Deneb Vier. Partout, les portes des temples Grichtek lui restèrent obstinément fermées. Frustré, à bout de force et d'argent, il regagna le monde de Barnard, sortit son VEM du parking longue durée, et arriva chez lui 1 heure avant l'anniversaire de Rachel.
« Tu m'as rapporté quelque chose, papa ?»
demanda d'un air joyeux la petite fille de 10 ans à qui Sarah avait dit ce matin-là que son père était parti en voyage. Il lui tendit un paquet cadeau. C'était la série complète de la petite fille de la Maison Verte. Mais ce n'était pas tout à fait le présent qu'il aurait souhaité lui rapporter.
« Je peux l'ouvrir ?»«
Plus tard, ma chérie, avec le reste. »
« Oh, papa, s'il te plaît, juste celui-là avant que Dicky et les autres arrivent !»
Sol interrogea Sarah du regard. Elle secoua presque imperceptiblement la tête. Rachel se souvenait qu'elle avait invité Nikki, Lina et d'autres amis, mais Sarah n'avait pas encore eu le courage d'inventer une excuse.
« Très bien, » dit-il, « juste celui-là avant que les autres arrivent. »
Tandis que la petite Rachel déchirait l'emballage de son cadeau, Sol aperçut dans la salle du séjour le paquet géant entouré de rubans rouges. C'était la bicyclette, naturellement. Rachel en réclamait une depuis 1 an. Il se demanda, accablé, comment elle allait réagir le lendemain en voyant son nouveau vélo la veille de son anniversaire. Le mieux était peut-être de s'en débarrasser quand elle irait se coucher. Il se laissa tomber sur le canapé. Le ruban rouge lui rappelait la robe de l'évêque. Sarah n'avait jamais renoncé facilement au passé. Chaque fois, elle avait mis de côté, après les avoir lavés et repassés, les vêtements de Rachel devenus trop petits, elle avait versé des larmes secrètes dont Sol avait eu d'une manière ou d'une autre connaissance. Elle avait chéri chaque phase de l'enfance de Rachel et, par-dessus tout, la normalité banale du quotidien qu'elle acceptait tranquillement comme le meilleur que la vie eût à lui donner. Elle avait toujours pensé que l'essence de l'expérience humaine ne résidait pas avant tout dans les moments exceptionnels, les jours de mariage ou de triomphe que l'on cerclait de rouge sur les calendriers de l'ancien temps, mais plutôt dans le flot inaperçu des petites choses courantes, telles les après-midi de week-end où chaque membre de la famille s'occupait à des activités personnelles, croisant les autres sans s'en apercevoir, ou échangeant avec eux des propos aussitôt oubliés. C'était la somme de tous ces instants qui créaient une synergie éminemment importante et éternelle. Il trouva Sarah dans le grenier, en train de pleurer silencieusement, tout en fouillant dans de vieilles malles. Mais ce n'étaient pas les larmes résignées qu'elle avait autrefois versées sur l'inévitable fin des petites choses. C'étaient des larmes de rage. Sarah Weintraub était furieuse.
« Que fais-tu ? »
lui demanda Sol.
Rachel a besoin de vêtements. Plus rien ne lui va. Ses affaires sont devenues trop grandes. Je suis sûre que j'en ai rangé dans une de ses malles.
Laisse ça, Sarah. Nous en achèterons.
Elle secoua la tête.
Pour qu'elle me demande chaque jour où sont passés les vêtements qu'elle aime. Non ! Je suis sûr qu'ils sont là, quelque part.
Tu le feras plus tard.
Merde ! Tu ne comprends pas ? Il n'y a pas de plus tard !
Elle se détourna alors et enfouit son visage dans ses mains.
« Excuse-moi !»
dit-elle. Il la serra tendrement contre lui. Malgré le traitement Poulsen, ses bras nus étaient beaucoup plus maigres que dans son souvenir. Des cordes et des nœuds sous une peau parcheminée. Il la serra encore plus fort.
« Excuse-moi !»
répéta-t-elle en donnant libre cours à ses sanglots.
« Mais ce qui nous arrive n'est pas juste !»«
Non, »
admit Sol.
« Ce n'est pas juste. »
La lumière du soleil qui filtrait à travers les carreaux poussiéreux du grenier avait quelque chose de froid et de triste qui rappelait l'atmosphère d'une cathédrale. Pourtant, Sol avait toujours aimé les odeurs de grenier, la chaleur, le renfermé et surtout les promesses recelées par un endroit généralement sous-utilisé et rempli de futurs trésors. Mais pour aujourd'hui, c'était fichu. Il s'accroupit devant une vieille malle.
« Très bien, » dit-il. « Nous allons chercher ensemble. »